We want to thank the Lord this morning.
Nous voulons remercier le Seigneur ce matin pour un temps merveilleux de grâce, de ce que nous puissions nous réjouir, nous puissions le louer et l'adorer ce matin. Alors que vous soyez ici présent ce matin, ou que soyez branché, ou que vous suiviez cette réunion à distance, qui que vous soyez, nous voulons vous souhaiter ce matin un joyeux Noël. Et que le Seigneur puisse être parmi nous, avec nous ce matin, d'une manière particulière. Comme le chant que nous avons chanté, chant d'assemblée, qui disait « Quelle assurance bénie d'avoir Jésus !» Et qu'ainsi il en soit ainsi, que tu fasses qu'il prenne de plus en plus de place dans ta vie. Consacre ta vie à lui, à Jésus, encore plus que jusqu'à maintenant. L'enfant Christ, s'il n'était pas venu dans ce monde, alors nous serions tous perdus dans les ténèbres et dans le déshonneur et la honte. Sans lui, sans Christ, il ne peut pas y avoir de vie. Nous serions morts à l'intérieur. Spirituellement, nous serions morts. Nous ne serions que préoccupés à nous servir nous-mêmes, à nous préoccuper que de nous-mêmes. Sans se préoccuper de qui que ce soit autour de nous, même en haïssant les autres, en haïssant Dieu, en haïssant l'Évangile, c'est par ce Christ, par ce Dieu qui s'est fait homme, qui est venu parmi nous, c'est par lui que nous sommes, que nous pouvons être des hommes et des femmes. Que le Seigneur puisse nous venir en aide. Que cette réunion ce matin puisse être une bénédiction pour vous. Quelles que soient les épreuves, les difficultés auxquelles vous faites face, Jésus est la lumière. Jésus est l'espoir, l'espérance. Il est la vie en abondance. Et cela est possible à condition que tu l'acceptes. Et qu'ensuite tu puisses l'apprécier, tu puisses vivre cette vie avec Jésus, ton Sauveur. Et il y a tellement de choses sur mon cœur, il va falloir que je m'arrête. Nous voulons prier, demander au Seigneur d'être avec nous. C'est un jour particulier, mais nous devons être reconnaissants. Nous ne savons pas combien de Noël nous allons vivre encore. Mais à chaque année, chaque Noël, nous pouvons exprimer notre reconnaissance, notre joie, notre louange envers le Seigneur, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour tous les gouvernements, les nations, les rois de ce monde qui permettent encore aujourd'hui, qui nous permettent de nous réjouir, de célébrer cette saison de fête, cette époque de l'année où nous fêtons Noël. Que ces nations qui sont ainsi puissent être bénies parce que la lumière peut briller, parce que la graine, la semence de l'Évangile peut être encore semée et grandir dans de telles nations, dans de tels pays. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous, jeunes, âgés, que le Seigneur utilise, que le Seigneur a appelé. Et ce sont des temps merveilleux dans lesquels nous vivons, parce que Dieu étend sa main, Dieu cherche chacun, chacune. Et il étend sa main encore envers chacun. Et sans évangile, nous qui sommes plus âgés, nous ne serions pas là. Peut-être nous les plus âgés, nous aurions, si ce n'était pas pour l'évangile, nous aurions peut-être été déjà euthanasiés, parce que de toute façon, nous n'avons aucune valeur pour la société, n'est-ce pas ? Peut-être dans nos familles, un certain nombre d'enfants ne seraient pas nés. Peut-être nous n'aurions qu'un enfant par famille, comme dans certains pays. Vous voyez donc la richesse, la bénédiction que l'Évangile apporte. Donc, ce que le Seigneur a en réserve pour toi ce matin, ne le repousse pas, mais prends-le avec des bras ouverts, parce que si tu viens vers cet enfant, le Christ, si tu embrasses cette vie, si tu es sauvé de ce monde ténébreux et terrible dans lequel nous vivons, avant de laisser la place à la chorale, nous voulons encore prier. Seigneur, quel privilège, quelle grâce, n'est-ce pas, que tu sois descendu du ciel . Nous te louons, nous t'adorons. Nous te remercions que tu aies renoncé à ta gloire, que tu aies renoncé à ta vie céleste pour venir sur cette terre, pour nous faire prendre part à cette vie et à cette lumière. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses bénir cette heure alors que nous sommes rassemblés ici ensemble. Bénis les chants, bénis les paroles qui seront prononcées et qui servent à l'avancement de ton royaume et de ton œuvre. Nous demandons, Seigneur, dans ce nom, dans ton nom de Jésus. Amen. On demandait à la chorale de s'avancer et ensuite, après les chants, nous laisserons la place à la parole.
My desire is
qui dit mon désir est d'être comme Jésus. Son esprit me remplit. Sa joie me guide. Mon désir est d'être comme Jésus chaque jour. La chorale va chanter trois chants, un chant zoulou, un chant en allemand et un chant en anglais. Donc le chant zoulou que nous aurons chanté parle de la naissance de Jésus, lui qui est né à Bethléem. Et les bergers ont entendu les chants des anges. Et alors ils sont allés pour l'adorer. Les mages sont aussi venus en demandant où est le roi, parce que nous avons vu son étoile. Et tout le monde était perturbé, Hérode a cherché à détruire cet enfant. Mais nous remercions Dieu qu'il ait permis que cet enfant survive. Le chant allemand parle et dit « Terre, réjouis-toi, ton roi vient. » Il vient en splendeur et avec majesté, et tous devront lui donner gloire et honneur et devront se courber, s'incliner devant lui.
Is as in Pamela. Thank you very much for what was said already.
Merci pour ce qui a été dit. Merci aussi pour les chants. Pour être honnête, je ne pensais pas devoir me tenir ce matin ici. Je pensais qu'il y a beaucoup plus de personnes plus âgées que moi qui feraient un travail bien mieux que moi. Et encore plus, j'aurais préféré si le pasteur Stegen avait pu se tenir ici ce matin. Mais par obéissance, laissez-moi partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si nous avons déjà pris à cœur ce qui a été dit en introduction, je pense qu'on pourrait déjà rentrer à la maison avec de quoi méditer, de quoi réfléchir sur ce qui a été dit. Il y a tellement de choses que l'on peut partager. J'ai fait des notes, j'en ai rajouté, j'en ai enlevé. Il y a tellement de choses qu'on souhaiterait partager. On ne peut pas, en une heure, faire justice d'un tel événement. On dit en anglais une expression qui dit « on parle à travers les fleurs ». Je me sens un peu comme cela ce matin, avec toutes ces fleurs devant moi. Et parler à travers les fleurs, c'est en anglais une expression pour dire « parler de manière détournée », qu'on veut dire des choses mais sans les dire en face. Donc j'espère que, alors que je vais parler à travers les fleurs, vous pourrez comprendre. Donc ce matin, nous nous souvenons de la naissance de Jésus. La naissance du Sauveur sur terre. C'est un sujet d'une très grande profondeur. En début de semaine, j'ai réalisé, c'est dimanche Noël, alors je vais lire les différents passages qui parlent de la naissance de Jésus. Et plus on lit, plus on réalise, on ne pourra jamais comprendre, saisir l'intégralité du plan de Dieu et de cet événement. Notre petite raison, notre petit cerveau n'arrivera jamais à faire le tour et à comprendre cet événement. Et plus j'ai regardé, plus j'ai étudié, j'avais l'impression, c'est comme si on saute au milieu de l'océan, on saute dans l'eau. Tu ne sais pas, quand tu es au milieu de l'océan, tu ne sais pas la terre, à combien est de distance est la terre, à droite ou à gauche. Tu ne peux pas comprendre la profondeur, tu ne connais pas la profondeur de l'océan. Et tu ne saisis pas tous les détails. Et il y a tellement de choses. Mais ma prière ce matin est que le Seigneur puisse révéler à chacun d'entre nous ce que chacun d'entre nous devons ou pouvons comprendre, ou le besoin que nous avons. Je ne me sens bien incapable d'expliquer cet événement. Mais si Dieu lui-même nous parle, alors nous comprendrons. Et je pense, je crois, que si nous comprenons certaines choses, alors notre vue, notre vision de la vie change. Alors considérons pour un moment, imaginez Christ dans les cieux, roi des rois, lui qui a créé l'univers. Lui qui, par sa parole, a créé l'univers entier par sa parole. Lui qui a créé, qui t'a créé, qui m'a créé. Lui à qui tout pouvoir, toute puissance a été donnée. Lui s'est fait homme. Il est devenu un humain. De sa gloire, il s'est abaissé pour devenir égal à toi et à moi, égal en chair et en os. De sa gloire céleste, il est devenu comme nous. Avec un corps comme le nôtre, avec les émotions comme les nôtres, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes besoins. Et ainsi, il est venu et a pris la forme d'un corps en chair et en os, non pas en esprit. Et il l'a fait pour notre salut, non pas pour lui-même, mais pour nous. On peut se poser la question, comment une telle chose est-elle possible? Comment est-ce que c'est possible que Dieu, de sa gloire éternelle, ait considéré s'abaisser et devenir égal à nous, égal à l'humain? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons même commencer à comprendre? Est-ce que nous pouvons même envisager, commencer à comprendre? Mais si nous arrivons à saisir et à comprendre un tout petit peu de cela, de cet aspect, alors cela devrait changer notre vie. Nos vies devraient être différentes lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons un tout petit peu de cette dimension. Ces derniers jours, j'ai lu le témoignage d'un homme qui avait sur le cœur d'écrire un rapport ou un livre sur une tribu. Je ne sais plus si c'est une tribu indienne d'Amérique ou ailleurs, mais donc cet homme chercha à étudier cette tribu. Cette tribu indigène. Et donc il étudiait et il a passé beaucoup de temps à étudier leur manière d'être, leur culture, leur mentalité, les coutumes, les us et coutumes de cette tribu. Et cet homme, pour parvenir à étudier cette tribu, s'est teint les cheveux, s'est teint la peau pour ressembler à eux, afin qu'ils puissent vivre parmi cette tribu et ainsi pouvoir les étudier au plus près. Et certains commentateurs disent, quel sacrifice cet homme a fait pour cela, qui a été prêt à sacrifier sa vie pour ce but. Quel homme cette personne a été. Mais considérons combien plus Dieu n'est-il pas en acceptant de laisser sa gloire pour se faire homme et être parmi nous, pour son but. Pour le but qu'il s'était fixé. Pour notre salut, pour nous. Et pour accomplir ce qu'il avait comme but pour nous. Donc je vais essayer juste de rassembler quelques pensées. Comment Dieu est venu? Si vous étudiez la manière dont Dieu s'est fait homme, alors nous devrions apprendre quelque chose. Et pourquoi, la raison pour laquelle il l'a fait. Combien cela serait triste si ce but n'est pas atteint. Dans ma vie et dans ta vie. Si après tout ce qu'il a fait pour nous, si Christ, de sa gloire, s'est fait homme, un tel événement, et qu'un tel événement n'accomplit pas le but que Dieu s'est fixé dans ma vie, alors comment est-ce que je pourrais un jour me tenir devant lui? J'ai lu ces derniers jours ces cartes que l'on a remises à l'occasion des 70 ans du ministère. C'est des versets. Alors, si vous n'avez pas reçu, alors essayez de vous en procurer. Je ne fais pas de la publicité pour la librairie, mais allez-y et procurez-vous cette série de versets. Donc c'est une série de, je crois, 70 cartes, donc petits cartons avec un verset et un commentaire du pasteur Stegen. Et quand vous lisez, c'est incroyable d'étudier ces versets, et je vais me permettre d'en citer certains. Le premier verset: quel grand jour était lorsque Christ est venu dans notre monde pour notre salut. Jésus est venu pour nous libérer, nous rendre libres par rapport au péché. Sa chair, il est devenu chair afin de nous sauver. Jésus est devenu chair comme nous, pour nous. Et sans vous étudier, quand vous réfléchissez à cela, c'est quelque chose, dimension que vous retrouvez tout au long de la Bible. C'est un sujet auquel est fait référence dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, et après dans le Nouveau Testament, même jusque au livre de l'Apocalypse. C'est un tel événement que la Bible, dans son intégralité, en parle. Donc, excusez-moi si je cite un certain nombre de versets dans différents livres ou dans différents endroits de la Bible, simplement pour illustrer un certain nombre de points. Donc, le premier point. J'aimerais citer un passage dans Philippiens 2. Je vais lire dans la version amplifiée. Moi, en français, je lis dans la version Semeur. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est l'humilité de Christ. Donc, vous pouvez lire, nous allons lire dans chapitre 2 des Philippiens, à partir du verset 5. Donc, au verset 5 de Philippiens, chapitre 2, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. » Donc, en la version anglaise, il est parlé de l'humilité de Christ que nous devons vivre comme lui. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc en anglais, il dit, en français, il dit ne chercha pas à profiter. En anglais, il dit il ne chercha pas à conserver son statut de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, verset 7, et il a pris la condition du serviteur. Dans l'autre version, il est parlé de l'esclave. Jésus se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Donc il s'est dépouillé de toute chose, de tous les attributs, on pourrait dire de tout ce qui faisait de lui un Dieu. Au point, il n'a même pas cherché à conserver son égalité avec Dieu. Il a tout abandonné. Verset 8, il est dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. L'anglais dit même, oui, même la mort sur la croix. Donc, l'obéissance, au point d'être humilié, d'être déshonoré. Il a été dépourvu de tous ses honneurs, de tout. Il a été humilié pour toi et pour moi. Laissez-moi le dire et pardonnez-moi si je ne peux pas l'exprimer autrement, mais pour moi, c'est la plus grande humiliation, déshonneur que l'univers ait connu. Pensez à cela. Dans l'histoire de l'univers, il n'y a pas eu de plus grand déshonneur, de plus grande humiliation pour toi et pour moi. Si on réfléchit juste à ce point, cela devrait nous encourager à vivre pour lui et à le servir de tout notre cœur. Juste en sachant ce point, cela devrait transformer nos vies. Parce que si nous réalisons cela, si nous comprenons cela, alors nous saisirons un tout petit peu de qui est ce Dieu que nous prétendons servir. Si nous réalisons ce que lui nous a donné, alors nous réaliserions qu'en retour, nous devons lui donner notre vie, nous devons lui consacrer notre vie. Nous consacrer notre vie à 100%. Si nous comprenions cela, alors nous comprendrions que donner simplement une partie de notre vie n'est pas suffisant. Même si je donne 99%, ce n'est pas suffisant. Comment puis-je me tenir devant ce Dieu qui a donné sa vie? Comment est-ce que je pourrais alors répondre et dire « Oh, cette petite chose, je n'ai pas pu le donner. » Excusez-moi de répéter les choses, mais si nous pouvions comprendre un tout petit peu de cet événement que nous célébrons aujourd'hui, alors notre vie serait différente. Alors, faisons en sorte que si le Seigneur nous ouvre l'esprit, nous fait comprendre quelque chose et nous demande quelque chose, que nous puissions être disposés à obéir. Alors se pose la question, est-ce que nos vies sont un exemple d'humilité? Est-ce que les autres peuvent dire de toi, de moi, c'est un exemple d'humilité? Si ce n'est pas le cas, nous ne suivons pas l'exemple de Christ. Et le but de sa venue n'est pas accompli. Quand j'ai réfléchi à ce point, je me suis dit, lorsque Jésus est venu, il est venu dans son entièreté. Donc il est venu sur cette terre comme un homme dans son intégralité, au point où il a accepté d'être né comme un bébé. Dieu aurait pu venir sur terre à un stade plus avancé de la vie, mais il a accepté de venir sur terre comme le plus fragile, le plus vulnérable, comme un bébé, un nouveau-né. Et il est né et il a grandi ensuite comme un enfant. Imaginez, il a grandi comme un enfant. Donc il a subi, il a vécu les difficultés d'un enfant. Et pourtant, sans péché. Donc vous, les enfants, quel que soit ton âge, que tu aies 2, 3, 5 ans, est-ce que tu réalises que Jésus-Christ a eu un jour ton âge? Il y a un temps dans l'histoire quand Jésus a marché sur cette terre et il avait ton âge. Peut-être toi tu dis « Ah, je suis enfant, peut-être un jour je servirai le Seigneur ». Mais rappelle-toi, souviens-toi que Jésus a été un enfant à un moment donné. Et pourtant, il n'a jamais péché. Alors ne pense pas en disant « Ah, je suis trop jeune, encore le temps, je peux servir le Seigneur plus tard quand je serai plus grand ». Non, le Seigneur a aussi été un enfant. Alors, est-ce que nous suivons l'exemple de Christ dans cette humilité? Je vais lire un autre carton. Si tu veux le réveil, prie pour ne devenir rien. C'est alors là que le Seigneur peut agir. Il n'y a pas de grâce si tu te considères meilleur que les autres. Ce sont des paroles difficiles, dures même, mais ce sont des paroles vraies. Si nous désirons que le Seigneur agisse par nous, alors il nous faut être aussi humble et s'abaisser comme lui a accepté de s'abaisser. Christ a accepté de s'humilier pour notre bien, pour nous. Pourtant, parfois, nous sommes honteux de dire que nous sommes chrétiens. Peut-être, tu te dis, « Ah, si je dis telle ou telle chose, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» Peut-être, tu es au restaurant, et tu hésites en te disant « Est-ce que je vais prier avant de manger ? Qu'est-ce que les autres vont dire autour de moi ?» Et nous ne faisons pas ce que nous savons être la chose que nous devons faire. Christ, lui, s'est humilié, s'est abaissé. Et alors nous péchons si nous avons honte de lui. Nous péchons si nous sommes honteux. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut manquer de sagesse et faire n'importe quoi, mais il y a une différence entre manquer de sagesse et avoir la honte. Si Dieu te convainc de faire quelque chose, alors tu dois le faire sans honte. Si Dieu me demande de parler, alors il faut que je parle. S'il me convainc de parler à telle personne, alors il faut que je le fasse. Sinon, nous ne suivons pas son exemple. Jésus est venu sur terre pour manifester son amour. Nous connaissons tous ce verset par cœur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans ma version, il est dit aussi « pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui ». Son amour envers nous je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais si vous lisez, relisez le passage quand Adam est créé par Dieu. Adam n'était pas le fils de Dieu, mais il a été créé par Dieu. On pourrait dire qu'il a été créé sans parents, mais Adam était la création de Dieu. Mais Adam et Ève ont introduit le péché dans le monde. Et Dieu alors a dit, j'enverrai mon Jésus, non pas comme ma création, mais comme mon propre fils. C'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus grandiose que d'envoyer, que de donner son propre fils. Adam représente la nature pécheresse de l'homme, représente la tentative de l'homme de se sortir de lui-même. Mais Jésus, fils de Dieu, vient nous sauver, nous libérer de cela. Alors écoutez la version amplifiée. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a même donné son propre fils unique, afin que toute personne qui croit, qui s'appuie, qui obéit au Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Adam représente notre nature pécheresse, qui représente nos propres forces, nos propres efforts. Mais ce verset nous demande de nous accrocher, de placer notre confiance, de faire confiance en Christ. Donc c'est non seulement de croire, mais c'est aussi cette dimension de lui faire confiance, afin que nous puissions nous reposer sur lui, lui faire confiance et non pas sur notre propre nature. Ou est-ce que nous sommes comme encore, comme Adam, nous savons tout, nous savons mieux que tout le monde et nous nous reposons sur nos propres forces. Si je ne peux pas me reposer, faire confiance en Christ, en tout ce que je fais, alors je rate le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils. Un autre point. Dieu, Jésus, est venu pour accomplir sa promesse. Alors, pour tourner, ouvrir notre Bible à livre d'Ésaïe, verset chapitre 7, verset 14. Il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui promettent que Dieu viendra. Donc Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu promet par les prophètes, Dieu promet qu'il enverra son Fils. Et le point que j'aimerais faire, c'est que Dieu l'a réellement fait. Dieu garde ses promesses. Je ne sais pas. Est-ce que peut-être des fois tu te fais cette remarque en disant « Oh non, mais de toute façon, ça ne marche pas. Cela ne sert à rien. » Peut-être même tu es désillusionné. Mais j'aimerais affirmer aujourd'hui, ce matin, Dieu garde sa promesse. Chaque promesse que Dieu a faite, comme il l'a fait dans ce verset, Dieu l'a réellement fait, l'a accompli. Et c'est ainsi que nous devons nous accrocher à ses promesses. Nous devons lui faire confiance. Ce n'est pas Dieu qui nous laisse tomber, c'est nous qui le laissons tomber. Je crois que j'ai déjà mentionné une fois ici, mais je me souviens, une fois, je suis allé voir mon beau-père et je lui ai dit, « Papa, il y a des fois, j'ai l'impression que c'est difficile. » Vous savez, il y a des jours, parfois, tout difficile. Et alors, il m'a répondu, ce sont ces jours-là. Laisse tes émotions de côté et accroche-toi aux promesses de Dieu. Il y a des jours, il y a des moments dans la vie où il nous faut nous accrocher fermement aux promesses de Dieu. Bien sûr, il nous faut faire notre part. Nous devons garder nos cœurs purs. Nous devons être dans sa volonté. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Mais Dieu garde ses promesses. Il accomplit sa promesse. S'il te donne une parole, si dans la difficulté, Dieu te donne une parole et tu es encouragé, alors accroche-toi à cette promesse, à cette parole. Et alors Dieu ne te laissera pas tomber. Le point suivant, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Nous pouvons lire un verset dans Matthieu, chapitre 1. Excusez-moi de lire tous ces mots, tous ces versets, mais il y a des centaines de versets que l'on pourrait citer. C'est quelque chose d'incroyable. Comme je l'ai dit, cet événement est cité, mentionné, ou on fait allusion à travers l'intégralité de la Bible. Vous pouvez lire dans Matthieu, chapitre 1, verset 21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. Jésus, Yeshua, en hébreu, qui veut dire le sauveur. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. J'ai oublié de mentionner le point précédent dans le verset d'Ésaïe que nous avons lu, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Quand Dieu a envoyé son Fils, Dieu lui-même était avec nous. Et même encore aujourd'hui, c'est une promesse que Dieu a faite, savoir qu'il reste avec nous. Donc verset 21 de Matthieu chapitre 1. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus nous sauve de nos péchés. Alors, est-ce que ce but, cet objectif a été accompli dans nos vies? C'est lui, il est venu pour nous sortir du péché. Alors, est-ce que ce but, cet objectif a été réalisé dans notre vie? Ou est-ce que nous continuons à vivre dans le péché? Est-ce que l'enfant Christ a accompli son but dans notre vie? Est-ce que c'est notre but? Est-ce que c'est notre objectif? Est-ce que c'est ce à quoi nous voulons tendre, à savoir d'être sauvés de nos péchés, de ne pas vivre dans le péché? Oui, bien sûr, nous pouvons faire des erreurs. Oui. Il y a des moments où nous devons mettre des choses en ordre, nous excuser. Mais est-ce que c'est le désir profond de mon cœur que cela se fasse de moins en moins? Chaque jour que je pêche de moins en moins, est-ce que c'est mon but que lorsque je suis face à une situation, et hier encore, je me mettais en colère ou je m'irritais, dans cette situation, et aujourd'hui, tu es face à la même situation, et alors tu cries au Seigneur, et tu dis, Seigneur, aide-moi, garde-moi de m'irriter à nouveau. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai conscience, que je ne dois pas faire la mauvaise chose, la mauvaise réaction, je ne peux pas avoir la mauvaise réaction. Jésus est venu pour nous sauver de cela. Mais si nous continuons à nous tolérer le péché dans notre vie, alors son objectif est raté. Tout ce qu'il a accompli, sa venue dans le monde, a été inutile dans ma vie. Est-ce que cet objectif a été accompli dans ma vie. Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle du péché. Beaucoup disent même aujourd'hui, non, vous n'avez pas le droit de parler du péché. Il faut parler de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son pardon. Oui, c'est vrai. Mais si nous continuons à pécher, alors sa grâce est vaine. C'est comme si nous la rejetons. Et alors cela sera que de notre faute. Un autre carton. J'ai déjà dit, mais je le rappelle. Procurez-vous ces cartes. Vous pouvez aussi les avoir en zoulou. Donc il y a une version zoulou, une version anglaise. Donc une citation de Pasteur Stegen était de dire « Mon but n'est pas de guérir des gens, de faire des miracles, mais ma préoccupation première est de m'assurer qu'il n'y a rien entre Dieu et moi-même, que ma relation entre lui et moi ne soit pas encombrée de choses. Est-ce que c'est là notre désir quotidiennement de dire « Seigneur, je veux que ma relation ne soit pas brisée. » Je me rappelle l'histoire d'un prédicateur et on disait de ce prédicateur que chaque fois qu'il allait se coucher, alors il priait avant de se coucher de longues prières. Et quelqu'un restait avec lui dans la chambre et cette personne savait, non, ce prédicateur prie. Il prie. Et cet observateur observait que ce prédicateur priait. Et dans ces moments-là, c'était une époque où ces personnes se levaient tôt, rentraient tard le soir, et les personnes dans la chambre observaient ce prédicateur. Il est rentré 2h du matin et il a eu une longue journée. Est-ce qu'il va encore prier après tant d'heures de labeur? Et ce jour, et c'était une journée particulièrement chargée. Et ceux qui étaient avec lui dans la chambre se sont dit, non, on voit qu'il est vraiment fatigué, il ne va jamais prier aussi longtemps. Et alors il a observé quand il est rentré dans la chambre. Et ceux qui étaient avec lui dans la chambre se sont dit, alors nous allons voir. Et cet homme, ce prédicateur, a commencé à prier. Et il a prié à voix basse, mais non pas pour impressionner les autres, mais ils ont pu entendre. Et cette missionnaire, alors, s'est agenouillé et il a prononcé ces paroles. Je sais que c'est une histoire vraie. Et ce missionnaire, alors, s'est agenouillé et il a dit, Seigneur, je sais qu'il n'y a rien entre toi et moi ce soir. Amen. Et alors, il s'est couché. Il savait à ce moment-là, il n'y a rien entre Dieu et moi. Alors la question se pose, est-ce que nous pouvons prier cette prière? Est-ce que, avant de me coucher, je peux dire la même chose? Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie, dans ma vie? Jésus est né de sa mère Marie, une vierge. Je me demande, qu'est-ce que Joseph a dû penser lorsque la première fois il a réalisé ce qui était en train de se passer? Vous pouvez le lire sur la même page que le passage, le verset que nous venons de lire dans Matthieu 1. Juste un peu plus loin, au verset, ou un peu précédemment, au verset 18, donc, Matthieu chapitre 1, « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. » Matthieu chapitre 1. Verset 18. Verset 19. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi elle se proposa de rompre les fiançailles sans en ébruiter la raison. Verset 20, alors qu'il réfléchissait à ce projet, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. » En anglais, il est dit, verset 20, « alors qu'il contemplait, alors qu'il évaluait la situation. » Donc, alors qu'il pensait à cette situation, je me demande, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit à ce moment-là? Imaginez, il est un homme juste, bon et droit. Elle est aussi connue pour être une jeune fille droite et de bonne réputation. Et tout d'un coup, il se retrouve dans cette situation. J'imagine que c'est comme si son monde s'est alors écroulé, on pourrait dire. Et donc, il réfléchissait à ce projet. Je me demande, peut-être à ce moment-là, a-t-il prié? Peut-être à ce moment-là, a-t-il examiné les choses? Mais il est dit qu'il a réfléchis à cette situation. Il a dû sûrement se poser la question, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation terrible? Mais à cause de la manière dont il a réfléchi, dont il a examiné la situation, Dieu a pu lui parler. L'ange a pu lui apparaître et a pu lui révéler le plan de Dieu. Et parce que Joseph était à la bonne gare, ce que, à ce moment-là, il a dû sûrement à un moment donné penser « cette situation est terrible ». Mais cette situation est devenue une situation merveilleuse. Si nous servons le Seigneur de manière fidèle, nous devons compter sur lui. Même lorsque la situation apparaît terrible, peut-être même nous pensons, ça y est, c'est la fin du monde, c'est... Peut-être tu te dis, je n'arriverai jamais à m'en sortir, à sortir d'une telle situation. Peut-être même tu te dis, c'est un bazar pas possible, parce que tu regardes les choses humainement. Mais si nous sommes en phase avec Dieu, même dans cette situation, Dieu alors peut révéler, comme il l'a fait à Joseph, c'est moi qui contrôle, je suis souverain. Encore un carton. Nous sommes en danger de rater si nous nous focalisons sur nos propres problèmes. Si nous nous focalisons sur notre amertume, si nous nous focalisons sur les difficultés, nous allons rater le plan de Dieu lorsque nous nous focalisons sur notre situation et non pas sur le Seigneur. Nous ratons, nous passons à côté de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu veut faire si nous nous focalisons sur notre situation. Si nous abandonnons l'espoir, alors nous passons à côté. À moins que dans sa grâce, il nous révèle son plan. À cause du temps, je vais continuer. Juste mentionner quelques autres points. Hier soir, nous avons eu cette pièce de théâtre ici, la pièce de théâtre sur le petit âne. Merveille de pièce de théâtre, un merveilleux message. Et rappelez-vous, à un moment donné, les rois mages viennent et apportent leurs cadeaux et les présentent devant l'enfant. Et voilà une autre réalité de la raison pour laquelle Christ est venu, et que nous puissions le louer, l'adorer. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons suffisamment? Nous lui devons tout. Je ne sais pas si nous l'adorons et le louons suffisamment. Peut-être même nous ne le remercions pas assez. Jésus est venu et les anges ont annoncé la bonne nouvelle, de grande réjouissance, de grande joie. Est-ce que cette joie est présente avec nous? Est-ce que cette joie reste avec moi lorsque je sers le Seigneur? Comme cela était le cas au premier jour, quand j'ai rencontré le Seigneur la première fois, est-ce que j'ai encore cette joie, cette excitation? Le Seigneur est venu sur terre pour nous apporter cette joie. Est-ce que j'ai encore de la joie en lisant ma Bible? Est-ce que j'ai encore cette joie lorsque Dieu me parle? Est-ce que je peux affirmer que mon cœur déborde de joie? Dieu, le Seigneur, est venu sur terre pour nous apporter cette joie. J'ai lu l'histoire d'un des juges de la Cour suprême aux États-Unis qui a été juge pendant 30 ans. Il est dit de lui que c'était le meilleur des meilleurs juges. Ce juge a dit un jour, « Je serais devenu prédicateur. » Mais lorsque je vois les prédicateurs, quand à l'époque j'ai considéré entré dans le ministère de la prédication et que j'ai vu que les prédicateurs avaient tous les têtes de croque-mort, alors j'ai fait un autre choix. Est-ce qu'il y a de la joie dans notre service pour le Seigneur? Une joie au point que tes enfants remarquent cette joie en toi. Une joie au point que ceux qui sont autour de toi, ton entourage, voient que tu as la joie de servir le Seigneur. Il faut que nos enfants voient cette joie, qu'ils puissent être poussés à dire « Moi aussi, je veux cette joie, parce que c'est merveilleux de servir le Seigneur. » As-tu encore cette joie? Cette joie que tu as eue au début? Dieu, Jésus est venu apporter la lumière dans un monde ténébreux, sombre. Est-ce que nous sommes une lumière là où nous sommes? Si mon entourage est dans les ténèbres, est-ce qu'il voit en moi la lumière? Là où je vais, est-ce que les gens se disent, tiens, lui est différent, elle est différente? Jésus est venu apporter la paix. On va lire quelque chose. Luc 2, verset 14. Donc Luc, chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. En anglais, il est dit paix aux hommes avec qui il trouve du plaisir. Donc, ceux qui trouvent faveur. Dans d'autres traductions, il est dit paix sur la terre à ceux avec ceux ou pour ceux avec qui Dieu est satisfait. N'est-ce pas incroyable? Paix à ceux, la paix donnée à ceux qui plaisent au Seigneur. Alors est-ce que nous avons cette paix? Peut-être le Seigneur n'est pas si heureux avec ma vie. C'est pour cela que je n'ai pas cette paix. Le Seigneur est venu nous apporter la paix. Il est venu guérir les malades. Il y a encore beaucoup d'autres raisons que l'on pourrait mentionner. Vous pouvez vous-même aller étudier. Il y a d'autres raisons, aussi d'autres choses où, lorsque Jésus est venu, il y a eu des difficultés. Jésus a eu de l'opposition. Hérode a tué tous les bébés. Et Jésus, alors, a dû fuir. Parfois, c'est aussi le cas. Nous devons parfois fuir. Et encore, la liste pourrait continuer. Réfléchissez. Allez étudier, lisez. Quel était le but pour Dieu d'envoyer son Fils? Et est-ce que cet objectif a été accompli dans ma vie? Est-ce que l'objectif de Dieu en envoyant son Fils, est-ce que cet objectif a été accompli dans ma vie? Si ce n'est pas le cas, alors dépêche-toi, hâte-toi de mettre les choses en ordre. Si je sais qu'il y a quelque chose dans ma vie, ne le mets pas de côté, ne le balaie pas du revers de la main, mais mets-le en ordre, tu ne regretteras pas. Et juste pour conclure, une pensée en conclusion. Le Seigneur a accompli beaucoup de choses pour nous. Il a démontré, il a montré la voie. Il a envoyé son Fils sur terre. Et nous avons par lui reçu beaucoup. Et j'aimerais conclure avec cette citation. Comme Hérode, Satan, le diable, n'est pas heureux, satisfait avec la naissance de Christ dans ton cœur, dans ta vie. Comme Hérode a cherché à tuer l'enfant Jésus, le diable va chercher à tuer Christ en toi. C'est pourquoi sois sur tes gardes. En même temps, ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur nous a montré, ce que nous avons déjà expérimenté, alors protège-le, garde-le de tout ton cœur, de toute ta force. Ce que le Seigneur nous a révélé au travers de cette œuvre, alors que nous puissions le conserver, le garder intact dans nos cœurs. Parce que le diable cherche à détruire l'œuvre de Dieu en nous. Et comment il est encore plus triste si l'objectif que Dieu s'était fixé est accompli, mais alors nous l'abandonnons, nous le laissons en arrière. Chers chrétiens, est-ce que Jésus, en venant sur terre, est-ce que le but, l'objectif, en venant sur terre, a été accompli dans ta vie et dans ma vie? Mettons-nous, plaçons-nous devant le Seigneur en prière et accomplissons, faisons ce que le Seigneur nous montre de tout notre cœur. Et alors, nous pourrons alors attendre avec impatience l'événement qui sera encore plus grand que l'événement que nous célébrons. Je parle humainement. Humainement, lorsque Jésus reviendra, nous pouvons alors attendre avec impatience ce jour-là, quand Jésus reviendra. Pensez donc à ce jour. Merci.
Well, we could have sat for a few hours.
Nous aurions pu rester assis pendant encore des heures, être mis au défi de ces paroles que nous avons entendues ce matin. Et nous louons le Seigneur de pouvoir nous accrocher et faire confiance à cet enfant, Christ, dans toutes nos situations. Nous pouvons nous reposer sur ses promesses. Mais si tu lâches, si tu relâches ton attention, alors nous serons engloutis par l'ennemi. Nous serons engloutis dans les plans de l'ennemi et le plan de Dieu, le plan que Dieu a en réserve pour toi, ne sera pas accompli et tu passeras à côté du plan de Dieu. Donc Jésus a renoncé à lui-même, a laissé le ciel, a laissé la grandeur céleste pour s'abaisser pour toi et pour moi. C'est pourquoi abaisse-toi, renonce à toi-même jour après jour. Crie à lui que ton premier cri lui soit adressé afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Nous ne pouvons pas rater, nous n'avons pas d'autre choix. Chers amis, nous n'avons aucun autre choix. Christ est venu sur terre, il est venu pour toi. Alors, quelle est ta réponse? Que lui réponds-tu? Nous voulons prier. Seigneur, que tu puisses briser chaque cœur réticent. Accorde-nous l'humilité. L'humilité de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Que nous puissions vivre dans l'obéissance jour après jour. Seigneur, s'il te plaît, rappelle-nous ces paroles qui sont vie pour nous. Seigneur, s'il te plaît, corrige-nous lorsque nous nous égarons du chemin. Afin que nous puissions avoir ton esprit, l'esprit de Christ, et qu'il nous dirige, qu'il conduise notre esprit. Et Seigneur, alors que nous nous séparons, que notre départ puisse te plaire. Et si nous devons mettre des choses en ordre, que nous puissions le faire. Que tu puisses avoir nos cœurs totalement soumis, totalement remis à toi. Seigneur, prends chaque jour prochain, chaque jour à venir, que tu puisses les prendre entre tes mains, afin que ton nom soit glorifié jour après jour. Nous te prions que tu puisses nous faire grâce, Seigneur. Que tu puisses... Nous puissions te voir à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos esprits. Et tout cela, nous le demandons afin que, en toute chose, ton nom soit glorifié. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, nous le prions, le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur reste avec vous.